Donc effectivement, je pars du cas rwandais pour remonter dans le temps. Parce que ce qui est frappant actuellement, c'est que 10 ans après le génocide, il y a toute une série de questions qui sont posées sur la situation après génocide, sur la justice, etc. Comme si l'événement lui-même était bien connu, alors qu'il continue à faire l'objet de traitements négationnistes. Jusque près d'ici, à Paris, dans des salles du Sénat en avril 2002, ou de la Maison de la Radio en novembre 2003, par exemple. Or, même si le plan d'extermination de toute une population réalisé avec la détermination et, si j'ose dire, la bonne humeur que évoque le dernier livre de Jean Hatzfeld, Une saison de machette, est un défi à la raison humaine, sa réalisation, sa maturation doivent être analysées. Le génocide de 1994 est le fruit, certes, d'un plan politico-militaire forgé par une faction extrémiste hutu, conforté durablement par des soutiens extérieurs. Mais cette conspiration, en tant que telle, ne pouvait pas être, entre guillemets, prévue. Mais elle a été concoctée, néanmoins, sur un terrain politique déjà préparé depuis des décennies, lui-même nourri d'une dérive idéologique fondamentale qui a accompagné de façon perverse la modernisation des sociétés de cette partie de l'Afrique, c'est-à-dire l'idéologie raciale qui est au cœur du regard et de la gestion des colonisateurs européens, belges, allemands, britanniques et même français, si on n'oublie pas les missionnaires catholiques, en Afrique orientale et centrale. Alors, sur le plan de l'échange inégal des discours entre Afrique et Europe, un des mythes fondateurs est bien connu, il est de nature religieuse, je parle de l'Afrique noire, il s'agit du mythe de Cam. Tous les Noirs étant depuis l'Antiquité tardive assimilés à la descendance de Cam, par opposition à celle de Sem et Japheth dans le discours de la Genèse, le mythe biblique de la malédiction portée par Noé sur la lignée de Cam est ensuite devenu un cliché pseudo-moral justifiant la traite esclavagiste. La question est encore débattue au Concile de Vatican I, 1870, et c'est l'évangélisation missionnaire qui, à la fin du XIXe siècle, est considérée par l'Église comme le seul moyen de lever cet anathème. On parle souvent en France de ces petits Africains auxquels nous aurions enseigné nos ancêtres les Gaulois. Ce n'est pas totalement faux, mais je pense qu'ils sont infiniment plus nombreux en Afrique à s'être entendus prêcher jusqu'en plein XXe siècle qu'ils étaient des enfants maudits de Dieu. Et je ne sais pas si le traumatisme psychologique de l'évangélisation de ce point de vue a été suffisamment étudié. Mais ce que je voudrais mettre en valeur dans cet exposé ici est d'une autre nature. Il s'agit d'un racisme inter-africain qui a été distillé paradoxalement au nom des Lumières, et qui a finalement été récupéré par tous les acteurs de l'Afrique contemporaine, administrateurs coloniaux, puis politiciens africains, médecins, missionnaires, prêtres et pasteurs, essayistes divers, journalistes de notre temps. Cette histoire culturelle et politique du rapport Nord-Sud ne peut être éludée pour comprendre comment on en est arrivé à 1994. Alors, donc, ce que je voudrais expliquer rapidement, c'est la naissance d'un racialisme moderne bien particulier. C'est la critique même du mythe de Cam sous un jour scientifique qui va produire au milieu du XIXe siècle une nouvelle approche raciale du continent africain sur laquelle on vit et on meurt encore. Alors je reprends ce que j'ai déjà développé depuis pas mal d'années à ce sujet, je résume. Donc il y a des exégètes et des linguistes allemands et français dans les années 1850-1860, parmi lesquels Ernest Renan qui a déjà été cité, qui montre scientifiquement que les personnages bibliques ne peuvent incarner que des groupes du Proche-Orient antique, le seul monde connu des auteurs des textes sacrés, et que Cam et ses fils ne concernent que le nord-est de l'Afrique, mais aussi la Mésopotamie. Le reste du continent n'est pas plus traité dans la Bible que la Chine ou les Incas. Alors, ce rationalisme historisant accompagne en même temps une poursuite du débat sur l'unité de l'espèce humaine. À cette époque, des auteurs nord-américains, voulant justifier l'esclavage, développent la thèse polygéniste. Il y a plusieurs espèces humaines. En France même, au début du XIXe siècle, vous avez par exemple l'encyclopédie Histoire naturelle du genre humain, du docteur Viret, un esprit éclairé de son temps, qui explique qu'il y a deux espèces humaines, celle à teint clair, dotée de toutes les qualités évidemment, et celle à teint sombre, à angle facial réduit, à cheveux laineux, caractérisée aussi par la nudité, l'entendement borné et une sensualité débridée. Alors, certains auteurs, ayant lu la Bible, comme on disait encore à l'époque, se disent même que ça doit être la lignée de Caïn, et non pas gens issus de la lignée de Noé. Donc les Noirs sont encore plus à la suite de ce traitement scientifique exclut de l'histoire des civilisations humaines. La destruction de Cam l'Africain, en fait, va être aussi le fruit d'une connaissance plus directe des peuples du continent. La diversité de ces peuples, leurs traits, leurs cultures, etc., conduit à les classer, à les hiérarchiser, comme dans un herbier avec toute l'application des ethnographes. On va distinguer des peuples beaux ou laids, intelligents ou stupides, guerriers ou pacifiques, organisés ou primitifs, bref, distinguer de plus en plus des vrais nègres et des faux nègres. Comme on disait au XIXe siècle, avant Banania, des nègres de débit de tabac, opposés à des noirs qu'on va traiter d'européens noirs. Alors, il y a donc un classement qui s'opère au sein des sociétés africaines. Et c'est dans ce cadre-là que va s'imposer ce qu'on a appelé, ultérieurement, le mythe amitique. Alors, dans le climat intellectuel de la deuxième moitié du XIXe siècle, il y a l'évolutionnisme, c'est connu, il y a aussi le diffusionnisme, qui faisait de tout trait de civilisation en Afrique le marqueur d'une influence étrangère. Et ce diffusionnisme est essentiellement inspiré par la pensée de Gobineau. Il ne faut pas oublier que Gobineau, dans son essai, a parlé de l'Afrique en termes d'une descente primordiale de populations blanches au sein du continent qui aurait apporté des éléments de supériorité raciale, mais ensuite abâtardis par les métissages, et que ces descendants d'une première coulée blanche abâtardie, qui seuls sont dignes de porter le nom de Camite ou de Hamite. Donc il y a donc ce renversement. La malédiction de Cam dans tous les Noirs est remplacée par l'existence donc d'une espèce supérieure, camitique, issue du Proche-Orient. Et dès lors, ça envahit toute la littérature ethnologique, française, allemande, britannique, on distingue les nègres et les hamites. Sous ce nouvel affichage de la tradition de Cam, devenu cette fois le héros d'un stock humain supérieur, on va retrouver les Éthiopiens, les Libyens, les Peuls, les Maasai, etc. Et c'est l'alpha et l'oméga de l'enseignement africaniste. Par exemple, du manuel de Charles Seligman, Les races de l'Afrique, réédité sans arrêt en anglais et en français des années 30 aux années 50. Les civilisations de l'Afrique, écrivait Charles Seligman, sont les civilisations des Hamites, qui étaient des caucasoïdes pastoraux, arrivés vague après vague, mieux armés et d'esprit plus vif que les agriculteurs nègres apostrophes. Alors, il faut noter que la construction de ce modèle hamitique s'opère exactement à la même époque que l'élaboration des autres grands modèles raciaux, aryens, sémitiques et pour l'Afrique, bantou. Léon Poliakov l'avait déjà montré en 71 dans son livre Le mythe aryen. Il faut revenir sur ce thème bantou puisqu'il va jouer dans le jeu d'opposition qui sont au cœur du génocide du Rwanda. Le terme bantou, au départ, signifiant les êtres humains dans tout un ensemble de langues de l'Afrique centrale, orientale et australe, est lancé en 1858 par le jeune linguiste allemand Wilhelm Bleck, comme un terme linguistique. Mais aussitôt, ce terme fonctionne dans le cadre du darwinisme ambiant. Il sert à opposer les langues bantou, définies comme agglutinantes, avec leur système de préfixes et de langues à classe, aux langues à genre, masculin, féminin, neutre éventuellement, langue à genre indo-européenne, sémitique et autres, langue à genre considérées comme les véhicules de culture supérieure sur le plan philosophique et artistique. Les langues à classe agglutinantes étant bloquant au fond le développement culturel. Très vite, la classification linguistique devient donc raciale. Les nègres bantous vont se caractériser dans cette grille par une stature trapue, une activité essentiellement agricole et une certaine arriération. Toutes les nuances qui ont été apportées ensuite par les archéologues et les historiens n'empêchent qu'il y a toujours cet imaginaire qui est resté de population arriérée, celle du nègre du Congo belge, les Belges eux-mêmes se plaignant d'avoir en charge les plus arriérés, et les exactions de l'Afrique équatoriale française ou l'apartheid d'Afrique du Sud. Alors, dans ce discours, cette construction progressive de ces modèles raciaux interafricains, la région des Grands Lacs va être le laboratoire de racialisation sociale. Parce que paradoxalement, l'opposition entre Hamites et Bantous va connaître son apogée dans des sociétés où précisément l'intégration culturelle et politique était la plus forte. C'est-à-dire que tout le monde parlait une langue bantou et était intégré dans une histoire commune depuis de très nombreux siècles. La politique coloniale de division et l'obsession raciale des Européens ont fait en particulier du Rwanda et du Burundi de véritables donc laboratoires de cette idéologie. Ils sont en présence de composantes sociales, Hutu et Tutsi, dont le clivage mêlé à la fois des activités préférentielles, élevage, agriculture, une hérédité clanique patrilinéaire et des enjeux politiques, au sein de sociétés très organisées donc et parlant une même langue bantoue. Au contact des cours princières et des aristocraties dirigeantes des royaumes de cette région, les Européens, étonnés de ne pas trouver la sauvagerie attendue au cœur des ténèbres de l'Afrique, entre guillemets ténèbres de l'Afrique, ne peuvent expliquer l'organisation politique qu'ils y découvrent, en plus, dans une région aux sources du Nil, qui fait tant rêver, qu'en interprétant cette situation en termes d'invasion civilisatrice venue d'Éthiopie ou d'Égypte. Les porteurs de cette culture seraient évidemment, transcrits en termes médiévaux, les seigneurs Tutsis dominant les serfs Hutus, vu le rôle des Tutsis dans la, de tout élément Tutsi dans les, la classe dirigeante. Donc, à la manière, dit-on, des Francs devenus maîtres des Gaulois ou des Normands maîtres des Saxons, chaque colonisateur avait ses références. Dans la gestion coloniale belge qui s'impose dans les années 20 et 30, les Hutus sont donc méprisés, considérés comme une manœuvre de base. Les Tutsis choisis comme de futurs auxiliaires, plus intelligents, des guillemets c'est la pensée coloniale, et donc sélectionnés de façon privilégiée dans les premiers et rares établissements scolaires du second degré. Le regard porté sur eux est d'ailleurs ambigu. Considéré par les missionnaires qui donnent le là dans ce régime colonial comme des habito-sémites, venus du Proche-Orient, à la fois porteurs d'une révélation primitive du Dieu unique et comme issus de lignées maudites, en fait, non pas depuis la malédiction de Cam, mais, excusez-moi, il faut, on revient au déluge, depuis la chute de la tour de Babel, qui les a refoulés de l'Orient. Donc, ces Tutsis sont, par définition, des gens orgueilleux et fourbes. Et ce sont les bâtards de Gobineau. C'est-à-dire, ils sont à la fois issus d'une coulée blanche ancienne, chassée d'Orient après la chute de la tour de Babel, abâtardis, donc ils procèdent de différents éléments raciaux, d'où ce côté double, ambigu, des véritables juifs de l'Afrique, écrit-on souvent sous signature missionnaire. En 1948, encore, un médecin belge écrivait, mais je ne peux pas lire toutes les citations, des Hamites, les Tutsis d'origine sémitique, ils possèdent le nez droit, etc., on devine en eux un fond de fourberie sous le couvert d'un certain raffinement, en face les Bahoutous, des nègres, qui en possèdent toutes les caractéristiques, nez épaté, crâne brachycéphale, caractère d'enfant, timide et paresseux, etc. 1948, trois ans après Nuremberg. À la veille des indépendances, la situation était donc empoisonnée. Les anciens contentieux entre Hutus et Tutsis, ils existaient, sont dès lors notamment, aux yeux des élites autochtones, chargés d'une sorte de fatalité raciale, rendant impossible tout compromis social moderne. La raciologie des Blancs, diffusée de manière lancinante, bénéficiant de l'autorité de l'écrit jusque dans des petits manuels scolaires, est devenue la culture politique d'une élite africaine. Et on arrive donc à la situation, alors il me reste combien, je vais faire du résumé en 5 minutes, c'est la situation contemporaine, mais qui s'inscrit dans ce parcours. C'est le clivage racial, au Rwanda, au Burundi aussi, comme enjeu politique, et autour du modèle rwandais, parce qu'on emploie sans arrêt cette expression. La décolonisation s'effectua dans les pires conditions. Le retour à l'indépendance, souhaité par les élites nationalistes, essentiellement Tutsi dans le cas rwandais en fonction de la politique belge de privilège pro-Tutsi, fut confronté à la revendication sociale, mettre déjà entre guillemets, d'une contre-élite Hutu, soutenue par les missionnaires catholiques. Le discours démocrate chrétien, inspiré par la doctrine sociale de l'Église, peut se comprendre, mais il s'est inscrit en même temps sur la ligne de clivage dite à l'époque raciale. Le mot « race » est employé par l'archevêque, par exemple André Perraudin, qui est un des meneurs de ce mouvement. Donc, il y a à la fois combat social et combat racial. Le Tutsi défini en soi, même si c'est un miséreux dans la campagne, comme féodal, si bien que l'émancipation politique de ce pays s'opéra exactement sur la même ligne idéologique que s'était faite la mainmise coloniale, celle d'un racisme interne, entretenu et légitimé. La révolution sociale qui abolit la royauté Tutsi en 61 pour mettre en place une république Hutu, parfois présenté comme un 1789 africain, n'a pas remis en cause ces ordres héréditaires, elle les a maintenus sur les papiers d'identité, puis dans des systèmes de quotas. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est les partenaires étrangers, partenaires belges de la mouvance chrétienne sociale, qui ne voient pas de problème à cette confusion socio-raciale, cette confusion, où la démocratie est employée, même si elle, en fait elle habille un discours qui au fond est racial, ne choque pas non plus des socialistes, ici ou là, en Belgique ou en France, et lisez la biographie de Mitterrand par Jean Lacouture, on vous explique que c'était très bien la vision d'un tiers-État africain face à une féodalité une féodalité, donc le combat Hutu-Tutsi était légitime de ce point de vue, combiné avec la vision ethnique, comme dit Jean-François Bayard, héritée de l'idéologie de l'infanterie de marine coloniale. Alors, la continuité de cette idéologie rwandaise est absolument fascinante. On pourrait trouver des tas de citations sous la Première République puis la Deuxième République. Je vous passe des meilleurs. Mais moi, ce qui me frappe, c'est que de même que Lucien Febvre nous a expliqué qu'au XVIe siècle, en France, on ne pouvait pas être incroyant. On était à l'ombre des clochers. Eh bien, moi, j'affirme qu'au Rwanda, encore dans les années 50, 60, 70, 80, on ne pouvait pas ne pas être raciste. C'est l'idéologie ambiante dominante. Alors, donc, pourtant, une génération après l'indépendance, dans les années 90, la société a bougé. Et, pour résumer, ce qui est fascinant dans l'épisode des 90 qui débouche sur le génocide, c'est que le régime Habyalimana en difficulté a remis en scène la situation de la révolution de 59. Il a choisi de revitaliser les passions des années 50, de recréer à coup d'une propagande froidement pensée la scène de cette révolution sociale, d'appeler le peuple Hutu à se lever contre le péril Tutsi. Donc, la campagne raciste a consisté à prendre les Tutsis dans leur ensemble comme bouc émissaire de toutes les difficultés. C'est la propagande de la RTLM, par exemple, et c'est un racisme très moderne. Là encore, j'ai pas le temps de vous donner des citations. Ça n'a rien à voir avec des atavismes tribaux, avec des coutumes ancestrales. Hein, quand on dit un cancrelat, puisqu'on est au régime de la bestialisation, ne peut pas donner naissance à un papillon, vous voyez ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on est au stade du racisme à prétention biologique. Et c'est cette propagande produite d'un racisme de bon aloi, comme l'écrivait une journaliste belge, qui est donc au cœur de l'idéologie du génocide. Moi, pour terminer, ce que je veux dire, c'est que ce qui est quand même inquiétant, c'est que même après le génocide, ça continue. C'est-à-dire qu'on voit comment ce modèle racial qui a débouché sur le génocide continue à être interprété, légitimé, justifié, comme un combat interethnique, ou avec toujours la perfidie Tutsi qui rêve d'un empire Tutsi sur l'Afrique centrale. Et nous voyons cette idéologie fonctionner non seulement dans des milieux nostalgiques de l'ancien régime rwandais, mais sous même les meilleures plumes d'une intelligentsia parisienne médiatisée. Moi, je pourrais vous citer des articles dans Le Monde, dans Le Nouvel Observateur, dans Le Courrier International, où on trouve exactement cette idéologie. Le négationnisme du génocide s'entretient dans ce regard obstinément figé sur les tribus d'Afrique et toujours tenté par l'équilibrisme d'un conflit interethnique, entre guillemets, qui permet de faire passer un génocide où la politique de notre pays a été impliquée par pertes et profits d'un désordre africain. Merci.